sais, Bill, les chants et les prédications, c'est la même chose. C'est mieux d'être connu que vieux. Ah, il est là. Bonsoir. Vous allez bien? Super. Moi aussi, je vais bien. Je vous remercie. La grâce pour la vie. Le thème de ce soir et le titre se raccroche à un verset qui est un très beau verset qui nous apprend énormément de choses dans Tite 2, verset 11 jusqu'au verset 13. J'aimerais par contre, avant de commencer, j'aimerais prendre un temps pour prier, s'il vous plaît. Merci Seigneur, on ouvre ta parole, Seigneur, pour y apprendre des choses. On ouvre cette parole pour que notre vie se transforme, qu'elle aille encore plus loin avec toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta force. Nous avons besoin de ton support. Nous avons besoin de ta grâce tous les jours de notre vie. Car lorsque je t'ai accepté comme sauveur et Seigneur dans ma vie, j'étais en faillite. Eh bien, dans ma vie spirituelle de tous les jours, j'ai cette même faillite. Je dois aller vers toi, Seigneur, avec humilité, et je dois continuellement aller vers toi. Et c'est ce que ce message veut nous parler, c'est la grâce pour le restant de ma vie. Et c'est dans cette optique que nous voulons approcher, ouvrir ta parole pour ta gloire et ton nom, Seigneur. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La grâce qui a été manifestée. Lorsqu'on entend la grâce, le mot grâce, on entend, elle est raccrochée très étroitement à notre salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas par le moyen des œuvres. Et on a raison de penser cela. Mais la grâce ne s'arrête pas là. La grâce continue. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était la grâce avant de connaître le Seigneur. Si vous m'aviez posé cette question-là, dans ce temps-là, je n'aurais jamais su quoi vous répondre. Il aurait fallu que j'ouvre un dictionnaire, que je vous lise la définition, tout simplement. Le mot « grâce » est venu en connaissant le Seigneur. Et j'ai compris c'était quoi la grâce en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais encore là, ça s'est arrêté pour un bout de temps, jusqu'à ce que je commence à développer et... Lorsque je donnais des cours de baptême, ou lorsque je parlais, ou lorsque j'entendais des témoignages d'autres personnes, la grâce devenait autre chose. Quelque chose se développait. J'ai réalisé que l'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. On voit les choses telles que nous sommes, nous. On a une perception des choses telles que l'on est, et non pas telles qu'elles sont réellement. La grâce... Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, que l'on saisit un jour par Dieu, mais que l'on développe graduellement à l'intérieur de nous. C'est quelque chose dans lequel on grandit. Et c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de développer jusqu'à la fin de notre vie. Il faut bien comprendre c'est quoi la grâce. Et 2 Pierre nous dit qu'il faut croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a eu un appel? Une alarme ici? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer. OK, c'est bien. Une alarme à la grâce ou quoi? c'est bon. Il faut croître, il faut grandir dans la grâce, se développer dans la connaissance de cette grâce-là. Et ça a des implications énormes. Parce qu'il nous dit dans 2 Pierre 3:18, « Ayez crainte d'être entraîné par l'égarement des impies et de déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce. » C'est une évolution que chaque chrétien doit vivre. Celui qui ne grandit pas, celui qui ne fait pas progresser sa compréhension de la grâce, devient infirme, spirituellement infirme. Il ne comprend pas. Il ne saisit pas. Et il peut être entraîné par l'égarement des impies. Il peut même déchoir de sa fermeté. On entend souvent ça, des gens qui sont fermes, qui sont solides, mais qui ne vont pas loin, qui déchoient éventuellement. Pour grandir, pour croître dans la grâce, il faut avoir une atmosphère particulière. Juste pour le phénomène d'apprendre, il faut se mettre en position d'apprentissage. On a des jeunes hommes là, qui vont à l'école ici, là, qui apprennent la menuiserie. J'enseigne des jeunes qui sont en mécanique et ainsi de suite. Pour apprendre, il faut que tu te places dans une position particulière. Pour croire dans la grâce, il faut que tu comprennes certaines choses. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas la même chose que de grandir dans la loi ou d'être un légaliste. Monsieur Bridges disait, « Si vous ne vivez pas selon la grâce, dans la mesure où vous vous raccrochez aux vestiges de votre propre justice, ou que vous placez votre confiance dans vos propres succès spirituels. Lorsque votre cheminement spirituel dépend de vous, lorsque vous vous trouvez bon, lorsque vous avez accompli certaines choses, lorsque vous dites à quelque part, « Je mérite bien ça », ou qu'on met en doute qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour moi. Lorsqu'on se sent juste, on ne vit pas selon la grâce. On ne se place pas dans une position pour croître dans la grâce. On a des exemples dans la parole de Dieu. Comment le manque de compréhension de la grâce se traduit-il? Et Pierre qui dit... Dans Matthieu 19, 27, il est écrit là, Pierre disait au Seigneur, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Seigneur, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce que je mérite? C'est quoi le prix? Qu'est-ce que je remporte? J'ai tiré la loterie spirituelle. Maintenant, il y a un prix, là. Ce n'est pas selon la grâce. Ou Pierre encore qui dit, « On a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Paul, c'est-à-dire Pierre, avait toutes sortes de raisons pour dire que Jésus ne pouvait pas le bénir à cet instant. C'était son métier. Il était dans une barque, il avait pêché toute la nuit, puis là, le Seigneur, qui n'était absolument pas pêcheur, qui ne connaissait rien là-dedans, il dit, « Jette le filet à côté. » Ben oui, non, oui, oui, on va le jeter, là. T'sais, c'est parce que tu me le dis, là, mais... Je te crois pas, ben, mais je vais te prouver que tu n'as pas raison, je vais le jeter, le filet. Ce n'est pas la grâce. Quelquefois, la grâce nous demande de démissionner devant des choses, de laisser ça entre les mains du Seigneur en disant, « Ça me paraît impossible à mes yeux, mais par ta grâce, et ta grâce seule, la chose que tu veux va s'accomplir. Et je n'aurai qu'à dire oui. Ou encore, le pharisien qui disait dans le temple, « Je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le problème, ce n'était pas que cet homme-là faisait des choses, mais pourquoi qu'il le faisait? Seigneur, je te suis fidèlement. Je vais à l'assemblée tous les dimanches. Je donne la dîme de mes revenus presque tout le temps. Je mérite bien ça. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est absolument pas la grâce d'avoir cette attitude. Par grâce, le Seigneur ne cessera pas de bénir, même si je ne le mérite pas. Même si je ne mérite rien. Et même si je le mérite, le Seigneur va bénir. Donc, la grâce ne vient pas de mes mérites. Si j'ai mal agi, mes actions auront des conséquences. Si je suis béni, ce n'est pas parce que j'agis bien. Si je ne suis pas béni, ce n'est pas parce que j'agis mal. Il y a une différence entre la grâce et la cause à effet. Il y a une différence énorme. Et deux exemples. Jacob a souffert du fait qu'il était fourbe et manipulateur. Il a dû sauver dans un autre pays. Il a dû travailler pour élever des troupeaux. Il a travaillé 7 ans pour sa première épouse, 7 autres années pour sa deuxième. Je n'ai pas travaillé autant pour la mienne. Mais elle me fait travailler aujourd'hui. Bon. Et il fallait que je le dise. Elle n'aime pas ça quand je parle. Mais Jacob a souffert du fait qu'il était fourbe et manipulateur. Mais la grâce de Dieu a béni Jacob. Il lui a donné une postérité. Il a donné une prospérité. Il a donné 12 enfants. Et il a donné une fin de vie, une belle fin de vie. Et David n'a pas été un père exemplaire. On lit les histoires de David et il y a des choses que David n'a pas fait qu'il aurait dû faire. Et beaucoup des problèmes, beaucoup des fardeaux que David a eus venaient de ses enfants lui-même. Mais pourtant, David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Les rois de l'Ancien Testament du peuple d'Israël avaient comme critère David. Tu n'as pas fait selon David, mon serviteur, qui est un homme selon le cœur de Dieu. Mais pourtant, David n'était pas, et on se rappelle l'histoire très connue de Bathsheba, et ainsi de suite. Mais la grâce de Dieu a permis que David, malgré toutes ses erreurs, Dieu a béni David. C'est la même chose pour nous. Ce n'est pas ce matin parce que j'ai lu pendant 1 heure de temps, j'ai prié pendant 3 heures de temps, puis que j'ai jamais arrêté de lire dans ma parole de Dieu toute la journée. Ah, là, le Seigneur va me bénir ce soir. Je vais avoir une bonne prédication parce que j'ai beaucoup lu aujourd'hui. Non. Le Seigneur ne me bénit pas selon mes critères. Il bénit selon le sacrifice de Christ sur la croix. Et c'est le seul critère que Dieu va utiliser. Jamais la grâce de Dieu ne dépend de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Ou de ce que j'aurais pu faire, de juste ou d'injuste. Car ce que je fais, même mes bonnes actions, sont tachées. Ésaïe 64:5, et on le connaît par cœur, les vêtements souillés. Tes œuvres de justice sont comme des vêtements souillés. Ma vie est attachée à la grâce de Dieu. On va avoir des bénédictions qui vont venir de nos efforts. La grâce n'annule pas la cause à effet. Mais c'est M. Luther qui disait, nous avons des bénédictions qui nous viennent par nos peines, et d'autres fois sans nos peines, mais jamais à cause d'elles, car Dieu les répand toujours à cause de sa miséricorde. Si Dieu nous bénit, chacun de nous ici, ce n'est pas parce que nous sommes bons ou meilleurs. C'est parce que Dieu est bon et Dieu seul. Ça dépend jamais de nous. Et M. Bridges encore disait, « La grâce de Dieu ne se gagne pas par nos mérites. Elle ne se perd pas par nos démérites. Si vous avez le sentiment de mériter une réponse à votre prière ou une bénédiction particulière de Dieu, en raison de votre dur labeur ou de votre sacrifice, vous ne vivez plus par grâce, mais par les œuvres. Nos bénédictions viennent de Dieu et dépendent de Dieu. Et le fait de vivre par les œuvres nous empêche de voir la grâce de Dieu. Plusieurs choses nous empêchent de voir la grâce de Dieu. Une chose, c'est qu'on a une mauvaise perception de Dieu. On voit un Dieu qui demande afin qu'il puisse donner. Pourtant, aucune bénédiction de Dieu n'est attachée à notre labeur. On négocie avec Dieu. Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez fait. Je l'ai fait, moi. Bon, là, je vais faire telle affaire, là, puis je vais abandonner telle chose, puis toi, Dieu, là, tu vas me bénir. Tu vas me donner telle chose parce que j'ai abandonné telle affaire. OK? On négocie avec Dieu. Puis plus je vais l'abandonner, plus tu vas m'en donner. Puis si j'en abandonne assez, tu vas peut-être devenir millionnaire. On négocie avec Dieu. Ou lorsque je fais un péché dans ma vie, Dieu ne répond pas parce que je ne le mérite pas. Ah non, hey, j'ai fait telle affaire, Dieu ne me donnera jamais cette bénédiction-là. Hey, je ne le mérite pas. De toute manière, tu ne l'as jamais mérité. Et Dieu peut te le donner quand même. C'est encore plus évident lorsqu'on regarde les autres. Hey, tu ne peux pas bénir cette personne-là, elle n'est tellement pas consacrée. Hein? Oh, regarde ce qu'elle fait. Ce n'est pas pour bénir cette personne-là, ça n'a pas de bon sens. Ça devient de l'injustice. La grâce de Dieu devient pour nous de l'injustice. Ou notre orgueil. C'est notre orgueil qui nous empêche de voir la grâce de Dieu. Je mérite cette promotion. Je mérite ce tel travail. Il était un jour dans ma vie où j'ai abandonné un travail, puis j'étais dans une école aux États-Unis. J'avais une très mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Quand je suis revenu, là, j'ai demandé un travail à Dieu. Puis j'ai dit, hey, j'ai abandonné celui-là, tu peux bien me donner lui, hein? Quelle perception j'avais de la grâce de Dieu. Dieu ne me devait rien. Dieu ne m'a jamais rien dû. Si j'ai eu le travail que j'ai à l'heure actuelle, je remercie le Seigneur énormément pour ce qu'il me donne, c'est par grâce. Ce n'est jamais parce que j'ai accompli quelque chose avant. Et c'est très orgueilleux de me dire quelque part, hey, « j'ai fait telle affaire, Seigneur. » Du coup. Et c'est malgré qu'on connaît l'enseignement. Luc 17 nous enseigne tellement le contraire. Luc 17, au verset 7 jusqu'au verset 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Des serviteurs inutile, malgré que nous ayons fait ce qu'il devait être fait. C'est rien pour se péter les bretelles d'avoir fait quelque chose pour Dieu. Nous avons fait ce qu'il devait être fait. Et nous devenons des serviteurs inutiles. Notre orgueil nous empêche de voir la grâce de Dieu. La grâce fait partie de la nature de Dieu, pas de la nôtre. Nous apprenons à connaître la grâce au fur et à mesure que notre vie avance. Nous nous sommes séparés de la grâce de Dieu lorsque Ève et Adam ont été tentés et ont décidé de passer à côté. Ils se sont privés de la grâce de Dieu. Et depuis ce temps, on a à combattre ce phénomène de la grâce que nous ne connaissons pas. C'est un cadeau de Dieu, c'est extraterrestre, la grâce. Quelque chose qui vient de Dieu, pas de nous. Et nous, nous découvrons jour après jour c'est quoi cette grâce-là. On a à prendre une attitude particulière pour profiter de la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on tourne dans 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel au chapitre 9. Une histoire, l'histoire de Mephibosheth. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Mephibosheth. David et Mephibosheth. Et David, au 2 Samuel 9, du verset 1 jusqu'au verset 13, c'est une belle histoire où ce que David fait grâce. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba? » Il lui répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « Il n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juste envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel de Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amniel à Lodebar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth! » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton père, mangera toujours à ma table. » Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonnera à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Quelle belle histoire! Mephibosheth est devenu boiteux dans un accident lorsque il devait quitter la maison en vitesse lorsque Saül était renversé. Et il était perclus des deux pieds ou il était boiteux. Il était incapable de marcher. Et David fait grâce à Mephibosheth. À cause du lien qui unit David au père de Mephibosheth, Jonathan. « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Ça ne dépendait pas de Mephibosheth. Ça dépendait de Jonathan. quel lien y existe? Le roi a dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que je vise envers lui de bonté, la bonté de Dieu? Il y a un lien qui existe avec nous. Et c'est exactement ce que le Seigneur Dieu a fait dans Éphésiens 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Si je suis béni aujourd'hui, ça n'a jamais dépendu de moi. C'est Christ, et c'est par lui et lui seul que je suis béni. Le roi qui pose cette question, c'est pas poser la question à savoir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Thibault a essayé de détruire ça, lui. Oui, il reste le fils de Jonathan, il est boiteux. Il est boiteux des deux pieds. Il est perclus des deux pieds. David a jamais dit, il est inutile comme ça. Non. La seule chose qu'il voulait, David, c'est faire du bien à la descendance de Jonathan. Parce qu'il était ami avec Jonathan. Peu importe l'allure de ce gars-là. Peu importe qu'il lui rapporte ou qu'il ne lui rapporte rien. Le seul désir de David, c'était de faire du bien à la famille de Jonathan. Même si Thibault le disqualifiait. Thibault avait l'air d'être sûr que David était pour changer d'idée. Mais ce n'est pas vrai. David a gardé son idée. Imaginez-vous Méphibosheth qui se présente devant le roi. En plus d'être boiteux, il est le fils de Saül. Et dans ce temps-là, Méphibosheth, qui était le fils de l'adversaire, il ne restait plus grand temps à vivre, autrement dit. Parce que c'était des compétitions, puis c'était... David aurait pu tuer Méphibosheth, puis tout le monde aurait dit, « Oh oui, il n'y a pas de problème. » Parce que c'est la succession de l'autre roi, et puis on tue la famille pour pas qu'il y ait de rébellion. Méphibosheth, il se présente devant David, et il devait être dans ses petits souliers. Il ne devait pas filer gros. Il ne devait pas être vraiment confortable. Et Méphibosheth n'est pas fou, il sait qu'il n'est pas capable de marcher, il sait qu'il est complètement inutile. Et l'attitude de Méphibosheth, il va dire, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Un chien mort, un chien, c'est dès au départ méprisable. Un chien mort, c'est méprisable et inutile. Le dernier chien qui est mort chez nous, je ne l'ai pas gardé longtemps. Méphibosheth est incapable d'apporter quoi que ce soit à David. Il se sent méprisable, il se sent inutile. Mais qu'est-ce qu'il fait, Méphibosheth? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne conteste pas avec David en disant, « Wow, je suis inutile, ça ne sert à rien que tu fasses ça, voyons donc. Je suis complètement inutile. » Il ne dit pas un mot. Il accepte la miséricorde de David. Il s'installe et il va s'asseoir à la table avec David. Et il va manger avec David pour toujours. Il accepte. Il accepte sa position, il le dit lui-même, un chien mort, et il décide de s'asseoir avec David à la table. Il prend sa position qu'il doit prendre. Il ne pose pas de conditions. C'est une grâce que David lui fait. Et Méphibosheth ne lui dit pas à ce moment-là, « Ben, sais-tu, il faut que je sois assis là, moi. Puis je mange ma nourriture seulement qu'à cette température-là, puis je ne mangerai pas ça, puis ça, puis ça. Oh. » Méphibosheth ne met aucune condition. Il prend la grâce de Dieu et il est content. C'est une grâce et il le sait. Il est content du privilège que le roi lui fait. Et il va garder cette attitude-là tout le long qu'on parle de Méphibosheth. Et on peut aller aussi loin. La dernière fois qu'on parle de Méphibosheth, c'est 2 Samuel au chapitre 19 et au verset 28. Et là, il y a eu Tsiba a essayé une fourberie. Et puis au verset 28, il dit, « Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à sa table. Quel droit puis-je encore avoir? Et qu'ai-je à demander au roi? » Méphibosheth considère encore sa position. Et au verset 30, Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, qu'il prenne toutes les terres, qu'il me vide complètement, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. La préoccupation de Méphibosheth, c'était le roi. Il ne se regardait plus, il regardait au roi. Il avait compris le principe de la grâce. Il avait compris que ce n'était plus lui qui était important, mais que c'était le roi. Et il prenait sa position. C'est l'attitude de Méphibosheth. Il est content que la paix soit sur le roi. Il est content que son royaume prospère. Non pas que lui soit assis à la table. Il ne voit pas son privilège comme étant se pétant et bretelle en disant « Je suis assis à la table du roi, moi. » Hein? Moi, je mange ce que je veux. Moi. Je suis riche, moi. J'ai des serviteurs, même si je suis perclus des pieds. Non, ils ne se regardent plus. Ils regardent leur roi. Et c'est l'attitude de la grâce. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si Méphibosheth avait eu une attitude arrogante et hautaine, exigeante, il aurait quand même profité des miséricordes du roi. Parce que David ne regardait pas à l'homme, mais regardait à Jonathan. Comme Dieu regarde à Christ pour nous bénir. Il ne regarde pas ce que nous sommes, il regarde à son Fils pour nous bénir. Mais c'est cette grâce-là qui doit nous enseigner. C'est cette grâce-là qui doit nous dire quelque part, qu'est-ce que je mérite de Dieu? Je ne mérite rien. Méphibosheth, non seulement il manquait de rien, mais il possédait des terres. Il était devenu des serviteurs. Il était devenu un homme important. Jamais Méphibosheth n'aurait pu même penser un jour se retrouver dans cette position-là. Imaginez-vous pour Dieu. Imaginez-vous quelle position que vous avez, vous, pour Dieu. Ah oui, on est des enfants de Dieu, c'est sûr qu'on est correct, on est bien. Mais vraiment, Dieu a besoin de moi, alors. Hein? Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de... Non, Dieu a besoin de rien. Et c'est par pure grâce si je suis devenu son enfant. Je suis comme Méphibosheth. Je suis dans l'incapacité totale de voir aux besoins de Dieu. Et Dieu m'a quand même fait grâce. Dans ce court texte de 13 versets de 2 Samuel 9, il est mentionné à 4 reprises que Méphibosheth mange à la table du roi. Et à 3 reprises qu'il y sera là pour toujours. Je peux me mettre à la place de Méphibosheth. Je suis un pécheur. Je suis pardonné, mais je suis quand même un pécheur. Et lorsque je vois, lorsque je réalise, lorsque je suis conscient, qu'est-ce que le péché fait pour Dieu, qu'est-ce que le péché est pour Dieu, quelle est ma valeur? Je n'ai pas grand valeur pour Dieu. Je suis un pécheur. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu me pardonne. Je ne peux rien apporter à Dieu par moi-même. Rien! Je ne peux rien apporter à Dieu par moi-même. Oui, hey, je donne de l'argent à toi dimanche, moi. Je suis généreux. J'amène mon argent tous les dimanches, ma dîme, puis j'en mets plus que moins. Puis pourtant, j'ai oublié de mettre la référence, dans 1 Chronique 29, il nous dit, « Car qui suis-je? Qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance éternelle, notre Dieu. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi et à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Ce que je donne à Dieu, c'est Dieu lui-même qui me l'a donné. Donc, je ne suis pas généreux, je lui donne ce qui revient. Il pourrait même tout avoir, l'argent que j'ai, et ce sera justice qu'il l'aille. Si j'ai le moindre sou dans mes poches, ça vient de lui. Donc, si j'apporte à mon Dieu mon argent, non, je lui redonne une partie de ce qu'il m'a donné, et sa grâce permet qu'il m'en reste. À Dieu. Le service? Ah oui, je rends des services à Dieu, moi. Ah, moi, je suis très actif. Je fais plein de choses. Mais pourtant, dans Ésaïe, il dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je peux être très actif pour Dieu, mais c'est Dieu qui permet que je fasse tout ce que j'ai à faire. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui bénit mon service. C'est Dieu qui permet que je sois actif à l'Assemblée. Je n'ai pas à me péter les bretelles parce que je fais telle chose ou je fais telle chose, parce que si Dieu ne voulait pas que je les fasse, rien au monde permettrait que je les fasse. Et même, il est extrêmement gracieux parce qu'il accepte mes erreurs aussi. Si je pense que je sers Dieu, c'est Dieu qui permet que je le fasse en ma place. Peut-être que j'ai d'autres choses. Je ne suis pas dans votre tête. Peut-être que vous dites, « Ah non, j'ai d'autres choses que je fais. » Eh bien, toutes choses viennent de lui. Dans le livre des Actes, il nous dit, « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Spirituellement, je suis perclus des deux pieds pour Dieu. Je dois déclarer faillite. Mais je dois voir la grâce dans ma vie. Et si je la vois, je vais la découvrir. Je vais donner gloire à Dieu. Et c'est ce pourquoi je suis ici. Donner gloire à Dieu. Et même cela, c'est par grâce que Dieu permet cela. Mais je dois la voir, la grâce. Si je ne la vois pas, si je ne vois pas la grâce de Dieu dans ma vie, elle ne croîtra pas avec moi. Que Dieu vous montre à chacun de vous de découvrir la grâce de Dieu, de la découvrir dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes. Où elle est ta grâce, Seigneur, dans ma vie? Comment je peux la découvrir? Comment est-ce que je peux avoir cette attitude d'humilité que Mephibosheth avait, d'humilité et de satisfaction face à ce que Dieu m'accorde et face à ce que Dieu ne m'accorde pas. Parce que Dieu nous donne des choses, mais Dieu aussi nous les enlève, ces choses-là. Et gloire à Dieu. C'est Job qui disait ça. Dieu donne, Dieu reprend. Gloire à Dieu. Et lorsque je serai béni, je vais être content. Mais c'est dur d'être content quand on ne l'est pas. Et pourtant, c'est ce qu'on demande. C'est ce que Dieu demande. Et c'est sa grâce qu'il nous donne. Et ça, dans le seul but que Dieu soit glorifié. Voyez, le verset que l'on avait au début, très beau verset, c'est par la grâce, c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. Si on ne la voit pas, elle ne nous enseigne rien. J'enseigne à une école. Quand la classe est vide, j'enseigne personne. C'est clair. Si on ne sait pas où est la grâce de Dieu, si on n'est pas capable de découvrir la grâce de Dieu dans notre vie, elle ne nous enseignera rien. Pourtant, elle a énormément de choses à nous parler. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne qu'elle nous discipline. Elle change notre vie afin que l'on puisse renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est de vivre sans se soucier de Dieu, sans se soucier des enseignements de Dieu, sans se soucier de l'influence de l'Esprit dans nos vies. La grâce nous enseigne ça, à renoncer à une vie sans Dieu. Elle nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises mondaines. Vous savez, c'est quoi les convoitises mondaines? Les choses qu'on aime bien, qu'on voudrait garder dans notre vie. Quelquefois, ce n'est même pas un péché, c'est quelque chose que... quelque chose qu'on veut garder pour nous, mais qu'on est obligé d'abandonner. Quelquefois, le Seigneur nous enseigne à travers ça. J'ai dû abandonner, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû abandonner d'aller dans des places de boissons. J'ai dû abandonner ça. C'était pas énorme, c'était pas un péché. Le Seigneur ne me dit pas quelque part, tu ne dois pas prendre de bière. J'aime le goût de la bière. Plus que deux, elle commence à coûter moins bonne. Là. Mais j'aime le goût de la bière. Mais j'ai dû dire à un moment donné, non, je vais arrêter ça. Si vous venez chez moi, j'en ai dans mon frigidaire, je peux en prendre une de temps en temps. Mais aller dans une place de boisson, j'ai décidé d'abandonner ça dans ma vie. J'ai décidé de laisser ça. C'est quelque chose qui pouvait porter à confusion. C'est quelque chose qui pouvait entraîner quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que quelqu'un m'aurait vu et aurait pu dire, « Ah, oh, ouais, ah, oh, OK, c'est permis. » Et pourtant, c'est quelque chose de terrible pour ce frère-là. Mais c'est comme si je lui donnais la permission en y allant. Ben, j'ai abandonné ça dans ma vie. J'ai abandonné cette convoitise mondaine-là. Un jour, on me dit au travail, « Tu prends-tu des billets de loterie? » Au début, j'ai dit, « Ouais, je vais en prendre. » Fais comme vous autres, montrer qu'un chrétien, ça peut prendre la loterie aussi. Après deux fois, après le deuxième tirage, j'ai dit non. J'ai dit, j'arrête ça, là. Il a dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, pour vous montrer qu'un chrétien, c'est pourri comme vous autres. Ça, j'embarque pas là-dedans. Non, j'embarque pas là-dedans. Le Seigneur m'a montré que c'était pas ça. Est-ce que je suis plus mal pour ça aujourd'hui? Ben non, je suis pas plus mal parce que les autres, ils perdent à tous les semaines, puis moi, je gagne 10$ à tous les semaines. Je suis plus riche. Il y a certaines convoitises, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais ça reste des convoitises mondaines qui sont dans mon cœur. Mais la grâce me montre à renoncer à ça. Et non seulement à renoncer, mais à renoncer avec un cœur joyeux. Wow! J'ai renoncé avec un cœur joyeux. Ici, on voit du côté positif. On voit, d'un côté négatif, on voit un côté positif. Et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, la justice et la piété. Quelqu'un de sage, quelqu'un de juste et quelqu'un qui sait prier. C'est l'image d'un chrétien mature. Oh, il n'est pas parfait, mais il est de plus en plus mature parce qu'il respecte ces côtés-là du chrétien. Et tout cela, c'est ce que Dieu nous demande, et c'est cette grâce-là de Dieu qui nous enseigne cela tous les jours, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Wow! savez, dans la vie d'un homme, d'une femme, de n'importe qui, on a tout le temps besoin de « wow ». On a besoin d'être épaté. Tu sais, on a besoin de « wow ». J'ai des petits-enfants. OK? Puis quand tu arrives à un petit enfant et que tu y emmènes une belle bebelle là, qui scintille, ils te regardent, ils disent « wow ». Mais Dieu me donne ces « wow » dans ma vie. Et c'est les meilleurs « wow » que j'ai dans ma vie. Je regarde la création et je vois plein de choses qui sont super belles, mon Stan. C'est beau, là, mais ça fait déjà une semaine que je le regarde, puis c'est correct. T'sais. Mais on ne se tente jamais de ce que Dieu nous montre dans nos cœurs. Dieu, il est plein de « wow » dans ma vie. Et d'attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, ça, c'est un « wow » qui n'arrête jamais. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Mes frères et sœurs, et moi aussi, certainement moi aussi, soyons enseignés par la grâce de Dieu et qu'à tous les jours, la grâce ait quelque chose à nous dire. C'est ce qu'il faut qu'il se passe dans votre vie et c'est ce qu'il faut qu'il se passe dans la mienne. Merci Seigneur pour ta grâce qui va plus loin que qu'est-ce que l'on peut entendre, comprendre, saisir. Tu as une grâce merveilleuse, une grâce extraterrestre. Seigneur, je veux la comprendre. Je veux aller plus loin que ma simple petite compréhension. Fais-moi saisir les aspects de ta grâce. Fais-moi découvrir la grandeur de ta personne et de ton œuvre. Montre-moi, Seigneur, comment je peux vivre continuellement entouré de ta grâce et découvrir ta personne. Tous les jours, peu importe la situation que je vis, ta grâce se manifeste et m'enseigne. Que ce soit vrai, que ce soit continuel dans ma vie, et c'est ma prière jusqu'à ton retour, jusqu'à la glorieuse espérance. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.